France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, nos années radio de nuit. Épisode 2, les nuits magnétiques ou comment habiter un silence. Les années reines de la radio de nuit ont été des lieux de liberté et d'expérimentation. Mais la manière dont les émissions ont fait usage de cette liberté sur les différentes stations a pu être assez différente. Le Pop Club de France Inter consacrait la liberté totale de son animateur, José Arthur. Sur Skyrock ou Fun Radio, c'était la liberté de tout dire. Avec Macha Béranger, le ton de la confidence entraînait toutes les licences, à condition bien sûr de rester poli et de ne pas dire de gros mots. Tandis que, pendant ce temps-là, à France Culture, on explorait une toute autre manière d'être libre.
Je vais vous poser une question un peu grandiloquente.
Oui.
Si Dieu est la cause de tout, l'égarement serait la cause de quoi ?
Dans les nuits magnétiques, en semaine à 22h30, la liberté est partagée entre différents producteurs et productrices qui travaillent comme pigistes, comme autant d'auteurs indépendants publiant sous l'ombrelle d'une seule et même collection. Il ne s'agit donc pas de donner à un animateur un créneau qu'il s'approprie ou il fait ce que bon lui semble. Ce n'est pas un nom que l'on retrouve chaque nuit à l'antenne de France Culture, mais une manière de faire, une méthode qui laisse une large place à la subjectivité. À cette collection, il fallait un créateur, un directeur, un initiateur, et celui-ci porte le nom d'Alain Weinstein. C'est lui qui a créé les Nuits Magnétiques en 1978, avec l'ambition de marquer une franche rupture avec le France Culture du passé.
J'avais repéré que la nuit était laissée un peu en jachère, et que la nuit, pour moi, c'était l'avenir de cette radio. À condition qu'elle se rapproche d'un auditoire qui n'était pas l'auditoire traditionnel de France Culture. Des gens plus jeunes, mais contemporains, si on veut, à l'époque, avec la même sensibilité, la même curiosité, le même désir, peut-être, d'écouter autre chose que ce qu'on avait l'habitude d'entendre sur France Culture.
En 1978, Alain Weinstein a 36 ans. Il est employé de l'ORTF mais ne travaille pas dans les studios. Son rôle se situe du côté de l'administration. Et pourtant, ce sont toujours les programmes qui l'ont intéressé. Il avait d'ailleurs commencé sa collaboration avec l'ORTF en tant que lecteur au service des dramatiques. Mais pour intégrer vraiment la grande maison, il avait passé un concours qui l'avait éloigné de l'antenne et avait atterri au service des ressources humaines. Durant plusieurs années, il avait répondu à des lettres de candidature spontanées pour des postes de speakerine ou de caméraman, les deux métiers qui faisaient le plus rêver à l'époque, comme il l'a raconté dans un de ses livres Radio Sauvage. Et puis, grimpant dans la hiérarchie, il avait passé quelques années au cabinet de divers PDG de Radio France, avant de rejoindre l'équipe de direction de France Culture. Finalement, en 1978 donc, il avait proposé au directeur de la chaîne le concept des nuits magnétiques, même si ce mot de concept décrit assez mal l'état d'esprit de l'émission. Car ce que Weinstein avait en tête, c'était, je cite, « un lieu de vie, c'est-à-dire de surprise, d'émotion, de passion, où les paroles vivraient en harmonie avec les sons et qui s'adresseraient aux auditeurs sans détour. »
Tu veux que je te raconte ma première fugue ? J'avais 6 ans. J'étais dans une pension religieuse et ce jour-là, on avait eu cours de gymnastique. Et dans les pensions religieuses, pour les cours de gymnastique, on avait des tenues particulières. On avait un short bouffant, bleu marine évidemment, avec une espèce de tunique qui était quand même fendue sur le côté, qui était bleu marine aussi, mais enfin qui cachait les formes et qui avait un petit élastique à la taille, ce qui fait quand même la cambrure, on la voyait bien, le petit cul sortait. Et j'adorais cette tenue. Et plusieurs fois, on m'avait reproché de vouloir sortir de la pension, parce que j'étais quand même que demi-pensionnaire, avec cette tenue. Et ce jour-là, j'ai pu m'échapper en tenue de gymnastique. Et alors là, ça a été vraiment le délire. Je suis partie à travers les rues et je suis allée si loin que j'ai atteint des quartiers où j'étais jamais allée, même avec mes parents. j'ai atteint ce qu'on appelait pas encore la zone industrielle, pour ainsi dire. Après les ponts, après le chemin de fer. Et là, j'étais vraiment très culottée, je m'en rends compte maintenant. Je suis carrément montée dans les immeubles, hein. Je frappais aux portes. Hein. J'avais inventé une histoire, comme quoi je quêtais pour les nonnes. Hein. Et les gens étaient complètement affolés de me voir dans cette tenue. J'avais 6 ans, j'étais pas grande. Je suis pas grande toujours maintenant, hélas. Et j'ignore complètement ce qu'ils ont pensé, mais moi j'ai joué mon jeu jusqu'au bout, jusqu'à la nuit. Et plus ça allait, moins j'avais peur, plus j'étais sûre de moi, plus j'allais loin. Et j'ai fini carrément par sortir de la ville, aller au dernier bâtiment de la ville, qui arrivait à ce qu'on appelait le pont de justice. Et là, j'ai commencé à rêver sur les trains. Tout était ouvert, tout était possible. Avec les trains qui passaient dans un vacarme infernal, les rails qui s'entrecroisaient, les lumières. Disons que j'ai pu retrouver cette impression les quelques fois où j'ai été saoule dans ma vie. Je crois que j'étais un peu comme ça, saoule d'air, de liberté, de je sais pas quoi.
Christophe Deleu, vous êtes professeur au QEJ à l'Université de Strasbourg et auteur de documentaires et de fictions audio. Vous avez produit plusieurs émissions dans le cadre des Nuits Magnétiques. Et cette archive qu'on vient d'entendre, des Nuits Magnétiques, est-ce qu'elle est représentative de ce qui se faisait dans l'émission ?
Oui, parce qu'elle est représentative, parce que c'est le témoignage, en fait, qui a marqué cette émission. Et on pouvait entendre de multiples témoignages la nuit, qui n'avaient pas été enregistrés la nuit, mais en tout cas, on les écoutait la nuit, et ça changeait tout.
Qu'est-ce que ça changeait ?
Oui, c'est important, parce que il n'y avait pas encore le podcast, et donc les émissions étaient conçues pour une grille des programmes, et donc pour un temps donné. Et donc les responsables de radio se disaient, ça va être écouté à 8h du matin, ou à 10h du matin, ou à 22h, et donc ils ne pensaient pas nécessairement les émissions de la même manière. Et il y avait l'idée que le soir, c'était les voix, en fait, on pouvait dire beaucoup plus de choses, c'était les voix non autorisées, par exemple. Macha Béranger, je pense, disait que les voix du matin étaient des voix autoritaires, des voix du savoir, tandis que le soir, la nuit, c'était des voix de personnes qui racontaient davantage leur vie.
Alors, dans un entretien qu'Alain Weinstein vous a accordé, dont on a entendu d'ailleurs un court extrait dans le début de cette émission en archive, il expliquait qu'il y avait, au moment de la création des Nuits Magnétiques, des résistances à l'intérieur de la chaîne. On se rend pas forcément compte à quel point ça pouvait être tout de même quelque chose qui tranchait beaucoup avec ce que France Culture faisait à l'époque, les Nuits Magnétiques.
Oui, France Culture, à ce moment-là, c'était des paroles autorisées. Autorisées dans le sens où c'était les experts, c'était les de la culture, les artistes, voilà, les syndicalistes, les politiques, mais pas forcément les témoignages de personnes anonymes qui racontaient leur quotidien. Ce qui est un peu banal aujourd'hui, peut-être avec le podcast, le témoignage, là, non. Et je me souviens que c'est resté d'ailleurs l'ADN des Nuits Magnétiques. La problématique était la même 20 ans après. C'est-à-dire que ça n'était toujours pas évident, même à la fin des années 90, de faire entendre des témoignages. J'avais toujours l'idée que, tiens, qu'est-ce qui faisait la légitimité de quelqu'un à se raconter comme ça à l'antenne ? C'était quoi l'intérêt ? C'était quoi son expertise ? Et donc, il fallait un peu, même à la fin des années 90, il fallait un peu se battre pour dire, bah si, on va pas inviter que des écrivains, on va pas inviter que des représentants, on va aussi inviter des personnes voilà, qui racontent leur vie. Mais c'était pas du tout une évidence.
Donc, vous diriez que c'était une émission qui était en prise avec son époque ?
Ah, complètement, il a capté quelque chose typiquement de l'époque. C'est quelques années après, il y aura une émission qui s'appelle Moi Jeu à la télévision, qui a fait beaucoup scandale, de Pascal Brugnon, où là les gens se racontaient. Après, il y aura Striptease aussi à la télévision. Je pense que Weinstein a été précurseur à ce moment-là sur France Culture. Il n'y avait pas d'autres émissions de ce type. C'était l'exception. Ce qu'on a entendu là, la fugue, tout ça, le récit de la fugue. À ma connaissance, il y a que là qu'on pouvait l'entendre.
En prise avec leur époque, les Nuits Magnétiques le sont de toute évidence. Et peut-être même en avance dans bien des domaines, puisque des thématiques très débattues aujourd'hui y sont déjà abordées. Par exemple, on trouve dans la salle des archives une émission de mai 1978 qui explore la thématique du genre. Elle a été enregistrée 5 mois seulement après le lancement du programme et le ton semble déjà trouvé.
Qu'est-ce que c'est pour vous être un homme ?
Qu'est-ce que c'est pour moi être un homme ?
Oui.
Ben ça, c'est une question Je suis né homme, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu être né femme.
Oui.
Ben, je ne vois pas. Non, sincèrement, je ne vois pas. Être homme, non, je ne vois pas.
Oui, je regarde, je reviendrai certainement pour une taille. Vous avez du 40
pieds. Oui, on a toutes les tailles.
Vous voulez que je vous réponde qu'est-ce que c'est être un homme?
Oui.
C'est un tout. C'est la moitié d'une chose.
Mm-hmm.
Ça fait partie des mystères qui existent.
Ce n'est pas une habitude, mais quand on se rencontre, si on a envie d'aller boire un coup, comme là, on s'est trouvé, on va boire un coup.
Enfin, c'est quand même plus, il y a plus d'hommes ici que de femmes, non, dans ce café.
Heureusement. Heureusement.
Pourquoi?
Eh, ben, c'est pas beau une femme qui boit. Hein? Ah,
quel sujet?
Hein? C'est quand même de pas se laisser faire, mais régulièrement, quoi. De ne pas imposer une idée, mais de pas se laisser imposer non plus. Être logique et pas se laisser faire, quoi. Mais logiquement.
Ben évidemment, s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Qu'est-ce que c'est? Ben, avec tout mon respect que je le vois, c'est avec des rapports sexuels. Il y a des rapports sexuels. Ensuite, il y a des ménages qui montent. Ensuite, la femme, il y a des enfants. Après, les enfants, ils deviennent grands, ils se remarient. Ils auront d'autres enfants, ils deviennent des grands-pères.
Christophe Deleu, votre regard sur cette archive?
Je suis ému parce que, en fait, c'est une émission de Nicole-Lise Bernheim, qui était une des rares femmes productrices régulières de l'émission. Au début, c'était quand même beaucoup des hommes. Olivier Képlin, Jean Dève, Jean-Pierre Milovanov, Franck Venaille, c'était vraiment... Mais il y avait Laura Adler et il y avait Nicole-Lise Bernheim qu'on a un peu oubliée. Alors, malheureusement, c'est une des seules décédées de l'équipe, donc moi, j'avais pas pu la rencontrer. Mais déjà, quand on réécoute ces émissions, c'est extrêmement émouvant. Et il y a une modernité, il n'y a rien à faire. Quand on réécoute ces émissions, on n'a pas l'impression d'écouter... Si, elle témoigne de son temps, mais on ne se dit pas c'est une vieille chose. C'est un témoignage, voilà. Et il a été aussi enregistré sur le terrain, puisque les Nuits Magnétiques, on allait sur le terrain pour capter la parole, soit dans les bars, soit chez les personnes. Et là aussi, ça change tout. Et bref, Nicole-Lise Bernheim, elle a capté effectivement les thématiques féministes dans cette émission dès le départ.
On retourne écouter Nicole-Lise Bernheim au micro d'Alain Levenstein.
Premièrement, Nicole-Lise Bernheim, Bruno Sourcy, l'espace des hommes. Il devient de plus en plus rare de s'intéresser aux hommes quand on veut être à la mode. Les femmes occupent beaucoup aujourd'hui les émissions de radio. Alors je voudrais vous poser deux questions. D'abord, pourquoi vous qui êtes présentée souvent comme féministe, vous êtes-vous intéressée à un sujet sur les hommes?
Je suis féministe, mais je m'intéresse aux hommes. Et je trouve que les hommes que je rencontre ne se posent pas forcément les questions que je me pose à leur sujet. C'est pour ça que j'ai pensé à faire cette série, où je leur pose des questions qui ne sont pas des pièges, mais qui sont simplement les interrogations que j'ai à votre sujet.
Avec un regard bienveillant ou un regard critique?
Un regard bienveillant, parfois agressif, parfois agacé. Critique, non, c'est un regard, si je puis dire, questionneur. Et ça, j'ai essayé d'exprimer avec la musique d'Offenbach, les musiques d'Offenbach qui seront utilisées comme contrepoint à mes interrogations.
Christophe Deleu.
Oui, alors Nicole-Lise Bernheim donc amène ces thématiques féministes. Alors il faut aussi dire que même les producteurs interviewaient aussi beaucoup les femmes. On entend beaucoup, beaucoup de femmes dans les Nuits Magnétiques. Mais Nicole-Lise Bernheim aussi a introduit la notion de jeu, de J.E. dans les Nuits Magnétiques, puisqu'il y a des séquences où elle s'enregistre même toute seule au moment du Festival de Cannes, par exemple. Donc elle se raconte avec cette voix. Enfin, Nicole-Lise Bernheim...
Très France Culture.
Oui, très France Culture. Alors, on sent l'influence d'India Song, tout ça, Duras, c'est des voix qui viennent vraiment de là, mais c'est une très très belle voix qui touche, en fait, directement les auditrices et les auditeurs.
Alors justement, formellement, il y avait un très gros travail au Nu Magnétique. Est-ce que c'était aussi en écho avec l'époque? Vous citez India Song, c'est le nouveau roman, mais c'est aussi l'époque du cinéma vérité. Ce sont des émissions où les producteurs, les productrices sont très en retrait, on les entend finalement peu. Est-ce que c'est aussi une époque esthétique qui se retrouve dans cette émission-là?
D'emblée, Levenstein, il voulait concevoir ce qu'il appelle des récits. C'est-à-dire que ces histoires qu'on entend, qui sont des vraies histoires, vous avez parlé de cinéma vérité, c'est les gens qui racontent leur vie, ils inventent pas. En tout cas, on le savait pas s'ils inventaient. Voilà, donc ils se racontent, donc et ça fait récit. Ce qu'on a entendu au début de l'émission sur la fugue, c'est le récit de quelqu'un qui va fuguer. Donc il y a un début, il y a une continuité, il y a une fin, et on pouvait vraiment écouter ça. Et puis c'était aussi croisé avec d'autres personnes qui avaient vécu parfois les mêmes expériences. Donc il y avait un croisement au niveau de la forme. C'est aussi un petit peu ce qui va faire la différence avec aujourd'hui. C'est pas forcément un seul témoignage, mais le mélange des témoignages de personnes qui avaient éventuellement qui étaient éventuellement tous des hommes ou qui avaient fait des fugues, et on croisait ça avec des paroles d'experts aussi, donc qui permettaient aussi d'avoir un contexte, tout ça. Donc on croisait beaucoup, la forme venait beaucoup de ce mixage, en fait, des différentes voix, des différents statuts de voix, puis aussi des silences, parce que c'était une émission qui faisait aussi la part belle au silence. Et il se raconte aussi que les productrices et les producteurs des Nu Magnétiques choisissaient aussi les interviewer en fonction, bien sûr, de ce qu'ils avaient à dire, mais aussi de la manière dont ils le disaient, c'est-à-dire des voix et des manières dont ils s'exprimaient, c'est-à-dire des silences qu'ils faisaient dans les phrases.
Donc il en fallait des silences?
Il en fallait. Ça faisait partie. Donc beaucoup m'ont raconté que ils faisaient des castings, alors souvent au téléphone, et que s'ils pouvaient choisir entre plusieurs interviewés, ils choisissaient celles et ceux qui étaient le plus radiophoniques, une espèce de radiogénie comme ça. Et c'est comme ça que ça se construisait. Et la plupart des voix que vous entendez dans les Nu Magnétiques, voilà, sont des voix qui ont été choisies
pour leur texture.
Leur texture, et ça compte. Ça compte autant. Peut-être pas autant, mais ça compte aussi beaucoup.
Et donc choisi pour la nuit, pour une diffusion nocturne, parce qu'on ne pouvait pas réécouter ces émissions une fois qu'elles étaient diffusées à l'horaire de la case des Nu Magnétiques, on ne pouvait pas les réentendre. Voilà. En 1978, le service public détient encore le monopole de la radio en France, et ce sera le cas jusqu'en 1981. Mais des radios pirates ont déjà commencé à émettre, et en grand nombre, ce qui influence les programmes de France Culture, dont les producteurs écoutent aussi ces nouvelles expérimentations. Les Nu Magnétiques sont donc imprégnés de ces manières de faire venues du dehors, ainsi que du combat pour la liberté d'expression sur les ondes. La radio des sachants, des professeurs et des officiels laisse la place au reportage, à la parole directe, à la vie.
Durant mes 29 mois de guerre d'Algérie, j'avais un transistor comme tout le monde. Et la nuit, j'écoutais la radio, j'écoutais des stations qu'on pouvait entendre, qui étaient un peu stupides. Mais c'était la vie qui arrivait. Et c'était la haine en même temps. Parce que j'avais 22 ans. Je vivais une expérience qui me déplaisait fortement. Et j'étais relié à la vie, à la vie normale par la radio. J'entendais les chansons à la mode, j'entendais les comédiens, les acteurs, les écrivains qui s'exprimaient comme si de rien n'était. Hein? La guerre d'Algérie était rayée de la pensée de tous ces gens, et moi j'étais dans mon trou, dans ma cage à rats, près de ce poste que j'écoutais, l'oreille collée dessus, parce qu'il fallait quand même pas faire trop de bruit. Et je, à la fois c'était un élément de liberté, parce que c'était le monde qui continuait, le monde qui poursuivait sa route, comme on dit. Et puis c'était vraiment ce sentiment de haine dont j'ai parlé. Combien de fois j'ai voulu vraiment briser ce poste en me disant c'est pas possible que moi je sois là à mourir debout, alors que la vie continue, qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes qui s'aiment, qui dansent, qui sortent, qui vont au cinéma. C'était des réactions assez primaires, et tout ça c'était issu de cette petite boîte, là, ce petit transistor.
Le poète Franck Venaille dans une émission à l'occasion des 10 ans des Nu Magnétiques en 1988. Votre regard sur cet extrait, Christophe Deleu.
Alors là, on a entendu Franck Venaille, qui était un des premiers producteurs, fait partie vraiment des producteurs réguliers dès 1978. Il faut aussi rappeler qu'il y avait beaucoup d'écrivaines et d'écrivains au départ.
Et de poètes.
Alan Weinstein voulait absolument que ces écrivaines et que ces écrivains fassent des émissions de radio.
Donc pas vraiment de journalistes, ce qui donnait aussi ce ton très littéraire à l'émission.
Voilà. Pour moi, ça vient un peu du nouveau journalisme, même si je sais qu'Alan Weinstein n'aime pas trop ce terme. Mais je pense que c'est la contre-culture, c'est le nouveau journalisme qui arrive des États-Unis. Avec ses, voilà. Donc, pour moi, c'est quand même une variété de journalisme, mais bon, on n'est pas forcément d'accord sur les termes avec lui. Et donc, ces écrivains, ils vont apporter ça, mais en même temps, ils avaient une espèce d'interdiction. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas écrire. Il ne s'agissait pas de faire de la littérature à l'antenne.
Donc, ils n'avaient pas de lire un texte qu'on aurait écrit préalablement.
Voilà, on leur défendait de faire ça.
Et pourquoi on leur défendait de faire ça?
Eh bien, parce que justement, il fallait. Weinstein voulait les envoyer dans le réel pour qu'ils puissent interviewer tous les témoins. C'est ça qu'ils voulaient.
Donc, c'est un parti pris.
Parti pris, voilà, d'envoyer ces écrivains. Alors, ils ont un peu triché, notamment Venaille, lui, il a quand même écrit des très beaux textes, même pour la radio. Il fait sans doute partie de ceux qui ont un peu triché.
Et cette émission d'écrivains et de poètes s'est parfois exposée à la critique de ses détracteurs, qui voyaient en elle un jus de cerveau parfois peu accessible et dont la lenteur d'élocution de certains intervenants prêtait un peu le flanc à la caricature. Exemple.
Michel de Musan, Mathieu Bénézet, deuxième entretien.
Michel de Musan, j'ai envie de vous poser une question assez bateau, mais... De quoi parlez-vous dans vos livres?
Je reste muet. Ça me paraît bien difficile de savoir de quoi on parle. Puis mes livres, il y en a de plusieurs sortes. Bon, faisons confiance aux associations. Ne sachant comment vous répondre, j'ai pensé, je parle du noir. Et je suis à peu près sûr qu'en vous répondant « je parle du noir », j'en dis beaucoup plus que je ne serais capable de le développer. Je me demande si ce ne sont pas les autres qui vont pouvoir en quelque sorte remplir ce noir.
C'est aussi cette émission qui a donné à France Culture une réputation, parfois, d'être un petit peu snob, un petit peu élitiste. Est-ce que vous l'entendez aussi, ou est-ce que pour vous c'est une mécompréhension totale de ce qui était fait à ce moment-là?
Non, puis ça permet de préciser que les numanitiques, c'était pas que du témoignage. Il y avait aussi des paroles d'écrivains, d'experts, mais ils étaient surtout amenés à parler d'eux-mêmes. Là, je pense qu'il y a une tentative, je sais pas si c'est une espèce d'écriture automatique qui est recherchée, c'est une archive que j'avais pas entendue. Mais oui, il y a quand même encore des... Il y a une partie magazine aussi dans les numanitiques, c'est pas que du témoignage qui a été enregistré sur le terrain, et donc il y a aussi des... Et donc c'est une émission hybride, et donc on peut tout à fait entendre le récit d'une fugue, et puis juste après un entretien avec un psychanalyste, et ça peut effectivement aller très loin. Mais je pense qu'il recherchait quand même quelque chose. Normalement, c'est quand on écoute des archives, c'est pas non plus exactement la même chose que les émissions balisées. Donc il faisait des expériences. Dans ces expériences, il y a des choses qui n'ont pas toujours fonctionné. Alan Weinstein le disait lui-même, parfois, quand il écoutait, il était déçu, mais il tentait, ça marchait pas tout le temps.
Quels sont vos souvenirs à vous, finalement, puisque vous avez participé à cette aventure? Qu'est-ce que vous en retenez?
En tant qu'auditeur, moi, c'est l'émission qui m'a fait découvrir la radio quand j'étais étudiant. J'écoutais le soir, donc, en direct. Et donc, pour moi, c'était une vraie révolution d'entendre des personnes. J'avais l'impression que quasiment certains témoins étaient des amis, même si il n'y avait pas d'interaction. Donc, c'était des personnes intimes qui se racontaient. Pour moi, c'était donc révolutionnaire, parce qu'il n'y avait même pas encore ça sur les radios libres, en fait. C'est venu après, Skyrock, tout ça. Et puis, en tant que praticien, moi, c'est l'émission où j'ai commencé à faire de la radio, alors que je ne connaissais strictement personne à la radio. On pouvait envoyer comme ça un projet, un texte de 2 pages. Alors, c'était Colette Fellous qui a repris l'émission après Alan Weinstein. Et on pouvait comme ça faire un documentaire d'1h30.
Sur projet.
Sur projet. On faisait confiance.
Et vous avez appris en même temps à faire de la radio?
J'ai tout appris avec les chargés de réalisation, bien sûr, c'était les réalisateurs qui, en fait, apprenaient à ceux qui avaient un projet, qui apprenaient à travailler la forme de leur émission. Et donc, Pour moi, c'est, voilà, c'était l'esprit des Numanétiques aussi. N'importe quelle personne envoyait un projet, était reçue par les responsables, et on vous faisait confiance. Et pour moi, c'est extraordinaire, quoi, de pouvoir, cette liberté de pouvoir comme ça raconter quelque chose. Voilà. Alors après, si ça plaisait pas, on vous le faisait savoir aussi. Et, mais pour moi, c'est un laboratoire. Donc moi, j'ai beaucoup raté des missions aux Numanétiques ou raté des interviews. Mais on autorisait l'erreur. C'est ça qui était formidable. Donc on pouvait apprendre et on pouvait réussir aussi des choses formidables. Je pense que ça a été aussi précurseur du podcast, d'ailleurs, Les Numanétiques, parce que Colette Fellouz, à la fin, avait introduit d'ailleurs des petites formes dans ses émissions, et elle incitait beaucoup les journalistes, les producteurs, les productrices, à se raconter au jeu, et donc on a beaucoup, beaucoup de témoignages. Michel Pomarède, par exemple, a fait des choses extrêmement intimes. Voilà, elle incitait beaucoup ça. Donc moi, c'était l'émission qui a amené progressivement vers le podcast quelques années après.
Un dernier extrait de ces Nuits Magnétiques.
J'ai ce souvenir d'un homme qui avait divorcé et qui, comme c'est souvent le cas, quand il allait chercher ses gosses, se faisait interpeller par son ex-épouse sur le mode « En quoi es-tu un père ?»« En quoi es-tu un père ?» J'ai vu un jour cet homme déclencher un incendie. Puis il est allé voir les pompiers en disant « c'est moi l'incendiaire ». Alors on l'a traduit devant le procureur de la République, qui me l'a envoyé sous contrôle judiciaire parce qu'il avait l'air un peu égaré, justement. Alors il s'avérait la chose suivante pour cet homme, c'est que son père était mort quand il avait 3 ans. Son père était tuberculeux et il rendait visite à son père à l'hôpital. Et puis son père est mort devant lui d'une rupture d'un vaisseau pulmonaire, donc d'une inondation pulmonaire. Il s'avérait que ce garçon, donc il voit son père mourir, il s'avérait que ce garçon avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide les années précédentes, qui étaient toutes, c'est ce qui m'était apparu rétrospectivement, des tentatives de suicide par voie respiratoire. Sa femme l'avait chatouillé sur le point de savoir en quoi il était un père, il avait ouvert le gaz. Une autre fois, même conjoncture, il avait foutu des vieux journaux dans une armoire qui s'était mis à brûler, il avait failli s'asphyxier. Puis là, il avait foutu le feu à une maison, et puis une autre fois, il avait essayé de se pendre avec des fils électriques. Puis à chaque fois, il a été réchappé. Mais le point commun de toutes ces tentatives de suicide, c'est qu'à chaque fois qu'on lui posait la question, que sa femme lui posait la question « En quoi es-tu un père ?», il répondait par « Un père est quelqu'un qui meurt par voie respiratoire ».
Les Nuits Magnétiques ont été ces émissions où l'on pouvait tout entendre, y compris les anecdotes les plus improbables, du type de celles qu'on vient d'écouter par le psychiatre Marcel Xermak.
Il faut aussi rappeler que les Nuits Magnétiques, c'était du langage, et que les productrices et les producteurs, en fait, allaient chercher ce langage. C'est le point commun avec la psychanalyse. Et que souvent, ils savaient pas ce qu'ils allaient chercher. Et que souvent, les interviewés, après, disaient « mais je ne m'attendais pas à dire autant de choses ». Donc, il y avait le plaisir de la découverte du langage. Et je pense que chacune et chacun a exploré cette dimension-là, de l'écoute et du langage. Et c'est ça qu'on reçoit en tant qu'auditrice et auditeur. C'est ce langage qui, en fait, a été capté. C'est la beauté de ces mots à chaque fois qu'on réentend.
À la même époque, mais dans un autre registre, l'intime se dévoilait au téléphone de France Inter. Grâce à la ligne de nuit de Macha Béranger, nous vous raconterons cela lors de notre prochain épisode. Celle des archives, nos années radio de nuit, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire et Lily Corner, prise de son, Ludovic Auger, Nicolas Bonnet et Marie-Claire Omabadi, Alina Arnaud-Plançon, mixage Bastien Varigaud, documentation musicale Antoine Vuillose.